réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
19h05, un gros merci d'être avec nous ce soir. Je vous rappelle l'impact aux environs de 19h30 avec l'avant-match ce soir et Laurent Duvernay-Tardif et le résumé, le condensé de son point de presse téléphonique aujourd'hui à la veille de l'ouverture de saison dans la NFL. Nous sommes en compagnie de Maxime Lapierre en direct de Berlin en Allemagne où il attend le début de la saison du hockey professionnel là-bas. Guillaume Latendresse qui est quelque part... tantôt j'ai l'impression que t'étais sur le bord. T'étais sur le bord de la piscine.
Peux-tu plus dire ça? Ça me fait penser pourquoi. Maxime en Allemagne, Berlin, Guillaume Latendresse à Candiac, sur le bord de...
Il avait pas fini, Guillaume. Guillaume, il est dans un Lafleur quelque part, c'est ça?
Il est dans un Lafleur. Est-ce que vous distribuez dans les Lafleur avec les canettes, la poche bleue? Là, j'ai pas regardé le contrat, les gars. Est-ce que vous fournissez les canettes ou faut que j'achète mes canettes, moi, là?
Mario, on va te livrer ce que tu veux. On va même t'es emmener en studio.
Wow!
En plus, je peux t'emmener des T-shirts. On porte le même size.
Ben là, tu me fais un compliment. Quoique je t'ai pas vu en personne depuis une couple de mois. Je sais pas jusqu'à quel point la pandémie t'a fait profiter. Ben moi, c'est le contraire. Fait que je suis dans le bon sens. Fait qu'on va se rejoindre pour vrai. Ça sera pas bien ben long. Les gars, yes. Je voulais vous parler de gardien de but. Il y a pas mal de candidats à l'autonomie complète sur le marché des agents libres sans compensation cette année. Puis je vais partir, la situation des gardiens étant réglable à Montréal, je vais vous parler de la situation de Vegas qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui disaient que c'était même pas un sujet dans le fond, puis que ici ça a remué beaucoup de choses parce que Marc-André, c'est un des nôtres, mais qui sera le gardien de Vegas? Pas dans le prochain match, mais la saison prochaine. Leonard est agent libre, il reste 2 années de contrat à Marc-André Fleury. Les gars, comment vous voyez ça?
Moi, je pense que ça va... Le Pete DeBoer a fait un choix avec Leonard. De la façon, oui, Marc-André gagne un gros salaire présentement, mais je crois que du côté de Vegas, l'entraîneur DeBoer a confiance en Robin Leonard. Moi j'ai eu la chance avec les Sénateurs d'Ottawa de jouer avec Leonard. Puis au niveau talent, c'est un gars extrêmement talentueux. On a connu son histoire de problèmes d'anxiété, de consommation, ces choses-là qu'il a mis derrière lui. Et côté talent, c'est un gardien numéro 1 et de loin dans la Ligue nationale. Ça, j'ai aucun doute sur ça. Mais il reste que pour moi, la façon qu'on a traité Marc-André Fleury à Pittsburgh quand il a quitté, la façon qu'on l'a traité dans les séries éliminatoires à Pittsburgh, la façon qu'on a traité Marc-André Fleury présentement à Vegas, pour moi, c'est inacceptable. Et j'espère que Vegas va choisir Leonard et que Marc-André aura l'occasion de montrer. Tu sais, il y a 2 ans, là, pas l'année passée, l'autre d'avant, quand Vegas est arrivé d'une expansion, on a pris Marc-André Fleury comme le premier choix des Golden Knights. Il les a emmenés en finale de la Coupe Stanley. On se retrouve 2 ans après. Marc-André n'est pas moins bon. Marc-André, c'est le même gars. C'est le même gars souriant. Peut-être justement trop souriant, ce qui fait qu'il est facile à faire la situation qu'on voit présentement. Mais pour moi...
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que, exemple...
Ben, un gars qui est trop facile à tasser, à m'emmener... Tu sais, tu comprends, on le met pas dans le filet, il fera pas de vagues. Son agent a fait un statement sur Twitter. Marc-André, il est allé en arrière de ça, disant, je pense à l'été.
Je comprends ce que tu veux dire. Le gars qui a l'air trop conciliant, veut pas... Une décision difficile est toujours moins difficile à prendre quand tu sais que le gars, c'est un bon gars.
Exact, puis il est aimé de tout le monde, puis c'est un bon Jack, mais j'espère que Marc-André, puis il lui reste encore des bonnes années dans la Ligue nationale, j'aimerais ça qu'il se trouve peut-être une place.
Ben moi, j'ai aucun problème avec la décision de l'entraîneur. Écoute, le coach a le droit de choisir avec qui qui veut aller à la guerre. Il a décidé que c'était Leonard, c'était lui son homme, il veut gagner avec lui. Je trouve ça dommage pour Marc-André Fleury, mais c'est même que je respecte pas sa décision, mais c'est comme ça. Ce que j'ai de la misère avec, c'est ses commentaires dans les médias. Moi, quand il a dit je vais y aller avec l'homme qui va me donner la meilleure chance de gagner le prochain match, il n'y a pas besoin de dire ça avec 2 gardiens vétérans dans le filet. C'est quoi le message que tu envoies à Marc-André Fleury qui a gagné 3 Coupes Stanley en disant « Le gars que je vais mettre dans le filet demain va nous donner la meilleure chance de gagner. » Moi, pour moi, je pense que les 2 gardiens donnent une chance de gagner à Vegas, on s'entend. C'est 2 très bons gardiens de but, mais c'est juste la façon dont c'est managé dans les médias. J'ai de la difficulté avec ça. Je suis d'accord avec Guillaume. Marc-André Fleury est encore capable de donner du très, très bon hockey à une équipe. Puis, dans le fond de moi-même, j'espère sincèrement que Leonard va signer à Vegas puis que d'une n'importe quelle façon, Fleury va réussir à retourner à Pittsburgh avec ses amis, ses coéquipiers avec qui il a gagné. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais j'espère que ça va être ça le dénouement.
Et j'ai hâte de voir dans le sens qu'avec le repêchage de l'expansion, je me demande si Marc-André ne deviendra pas le visage tout désigné pour amorcer un autre défi d'équipe d'expansion avec Seattle. Sinon, quelle équipe va le prendre à 7 millions par année? À moins que tu en profites pour refiler genre un Carl Alsner dans le trade, là, avec un exemple, là, mais il y a d'autres noms du genre, des gars avec qui t'es pogné avec le salaire, là.
Ouais, il y a des gars avec qui t'es pris, mais le problème, c'est que Fleury peut te donner encore du bon hockey.
Ah oui, c'est sûr.
Fait que son salaire à 7 millions pour 2 ans.
C'est pas déraisonnable, selon toi.
Exactement, tu sais. C'est un gars qui peut être gardien premier partant, puis il peut te donner. C'est un des gars qui est capable d'être d'un filet, comme partant pour beaucoup de matchs, beaucoup plus que certains dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a démontré année après année qu'il est capable d'être d'un filet. Fait que pour moi, Marc-André Fleury, son salaire me dérange pas. Une équipe qui a de l'espace sur son cap salarial, qui a la différence ou la, tu sais, j'ai pas les statistiques ou les notes devant moi, mais tu sais, je pense à des clubs comme Caroline qui ont à peu près tout, sauf peut-être des gardiens. Là, je pense qu'ils ont été dans les séries cette année avec James Reimer. Tu mets un Marc-André Fleury dans les filets, tu viens de changer la dynamique de cette équipe-là à 100%. Oui, 7 millions, peut-être tu te départis d'un joueur, mais il reste que quand même, il y a des équipes comme ça qui sont à, je vais dire, un gardien près.
Washington, les gars, Oldby ou un Fleury, exemple, on ramène ça Oldby pour une année ou on prend une chance avec un Marc-André pour amener un nouveau souffle ou ça viendrait des faire le noyau?
Vas-y, ben, moi, je pense qu'on peut le voir à deux endroits différents. Écoute, tu peux le voir dans une équipe gagnante qui va aller jusqu'au bout, qui vont chercher Fleury, mais tu peux aussi avoir une équipe jeune en reconstruction qui a besoin d'un vétéran, qui a besoin d'une voix dans le vestiaire, d'un gars qui a gagné, puis un gars qui est derrière toi pour faire les gros arrêts. Tu sais, je pense à une équipe comme Buffalo, par exemple, là. Une équipe qui s'en va pas nulle part depuis plusieurs années. Tu vois qu'ils ont besoin d'un vétéran dans le vestiaire qui est capable de parler, d'amener un positivisme à la
J'aille pas ça. Que,
tu vois-tu, genre, Mario, je pense que ça peut aller dans cette direction-là aussi, si bien évidemment Marc-André accepte de se ramasser dans une équipe comme ça.
Les gars, tu parlais de Robin Leonard, puis il veut pas que ça devienne un des gros noms des séries actuellement. Il disait encore hier qu'il n'y avait aucune gêne, puis c'est correct. On sait qu'il avait écrit une lettre dans le Players Tribune, puis c'est correct. Quoi. Maintenant, il n'y a pas à se cacher. Mais avant que ça ne soit révélé, là, je veux dire, est-ce que tout le monde est conscient que le gars a un problème quand on joue avec, avant qu'il sorte au grand jour avec cette situation-là, Guillaume?
Qu'on peut voir qu'il y a un problème. Moi, ce que je peux dire, par exemple, c'est que j'avais peut-être remarqué un côté, anxieux, un côté avec une certaine agressivité, peut-être dans sa personnalité. Les problèmes de consommation ou comment il se sent dans un filet, ça, j'étais pas au courant. Mais il reste que c'était une très bonne personne. Puis est-ce que moi, de mon côté, j'aurais été capable de dire ce gars-là, il y a un problème? Puis si, non. Non, ça serait malhonnête de ma part de dire ça. Donc non, j'avais jamais remarqué ce problème-là qui pouvait être aussi flagrant ou aussi gros qui a été justement dénoncé dans le Players Tribune. Mais il reste que ça démontre encore une fois que c'est un fléau puis que ça reste des tabous dans la Ligue nationale. Puis c'est des discussions qu'on réussit peut-être pas à avoir. Peut-être s'il n'avait parlé un peu plus tôt, il y aurait eu de l'aide avant de se retrouver à Buffalo, avant de sombrer dans ce qui a été difficile à Buffalo, s'il avait demandé de l'aide avec les sénateurs. Donc c'est des choses qui deviennent difficiles à discuter. Mais non, de mon côté, j'avais jamais remarqué peut-être ce côté-là.
J'en reviens à ce dont nous discutions tout à l'heure par rapport à Max Domi, les groupes de 7 dans le vestiaire, ceux qui sont toujours dans le bon sens, que t'as jamais à les ramener dans la ligne droite, il y en a qui vacillent, tout ça. Maxime, est-ce qu'il y en a beaucoup qui défient les entraîneurs dans une équipe de hockey publiquement? T'sais, on a vu l'altercation du Bois Tortorella, c'était devant les caméras, c'était sur le banc, c'était dans le feu de l'action. Je suis sûr que les gars ont bien vécu avec ça après, mais loin des caméras, il y en a-tu? Y a-t-il des joueurs qui osent défier le coach?
Oui, ça arrive de temps en temps, surtout là, la nouvelle génération. Écoute, je pense que c'est le message est clair depuis quelques années. On n'accepte plus ce genre de traitement là, en tant que joueur. Là, on l'a vu, là, quelques entraîneurs ont perdu leurs emplois dans les dernières années à cause de ça. Puis, je pense que les joueurs veulent juste avoir une relation. Tu n'as pas besoin d'une relation amicale. Tu n'as pas besoin d'être ami avec ton coach. Ce que tu as besoin, c'est d'être honnête. Tu veux qu'ils te disent la vérité, tu veux savoir ton rôle, t'as pas besoin de te faire crier après. Tu sais, les gars dans la Ligue nationale, là, la plupart, c'est des pères de famille, c'est des gars disciplinés, ils ont été des athlètes professionnels toute leur vie. Ils ont juste besoin de se faire dire, écoute, le grand, faut que tu joues mieux ou on va te mettre sur le quatrième trio. Ils ont pas besoin de se faire crier après en public. Puis moi, je l'ai toujours dit, là, c'est les entraîneurs qui crient devant la caméra, devant les joueurs ou qui passent des messages par l'entremise des médias, des réseaux sociaux. Puis ça, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Puis je pense que c'est une chose qui change dans la Ligue nationale pour le mieux. Moi, je crois vraiment un meeting à un contre un, là, un à un après le match. Puis tu te dis, écoute, il va falloir que tu fasses mieux pour aider l'équipe. T'as pas besoin de crier. Là. Je l'avais même mentionné quand Tortorella avait eu l'épisode avec Dubois.
Oui,
j'étais vraiment pas d'accord avec ça. J'étais vraiment pas d'accord avec ça. Puis je suis content que Dubois s'est retourné et lui ait dit sa façon de penser.
Guillaume?
Mais moi, tu vois, d'un côté, je suis 100% d'accord avec Max, mais de l'autre, dans le feu de la... Moi, je vais plus pardonner dans le feu de l'action.
C'est sûr.
Peut-être le problème que j'ai en ce moment, c'est que ces Tortorella-là, puis on a déjà vu ça par le passé. C'est peut-être le seul bémol que je peux mettre là-dessus. Mais de l'autre côté, pour moi, dans le feu de l'action, l'émotion est élevée. Il y a un jeu que ça fait peut-être 25 fois que le coach, justement, en un contre un, il monte des vidéos puis des séquences qu'il veut pas qu'il fasse. Donc, de ce côté-là, mais il reste que je suis d'accord à 100% avec Max.
Ça dépend de qui challenge, Guillaume, aussi, Maxime. T'sais, ça dépend, tu sais, si c'est le gars qui est borderline dans l'alignement ou c'est chez Weber qui dit au coach, écoute, coach, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas même porté dans la chambre. Là.
Je pense que John Tortorella est assez intelligent, il savait à qui il faisait affaire. Quand il a fait cette situation-là avec Pierre-Luc Dubois, il savait que ça allait être un gars qui allait répondre, il savait que c'était un gars de caractère, puis au-delà de ça, il savait que c'était un gars qui était extrêmement talentueux. Donc, je pense que John Tortorella a juste réussi peut-être pour certains d'une mauvaise façon à peser sur le bon piton, mais il reste que quand même, c'est des techniques et des façons de faire que moi, je veux plus voir dans le hockey d'aujourd'hui. Ça sert à rien. Il y a matière à discussion, il y a matière à ouverture, il y a matière à dire. Puis même, Bastard, là, un joueur à l'inverse, d'aller voir un entraîneur puis de dire des choses qu'il aime pas de l'entraîneur, ça se fait. Fait que, tu sais, pourquoi on commencerait à se crier sur la place publique? Puis le seul place que je peux permettre, comme je l'ai dit, c'est parce que c'était dans le feu de l'action. Mais quand on règle des conflits dans les médias, quand on veut mettre quelqu'un sur la place publique, moi, je suis entièrement contre ça. Mais encore une fois, dans le hockey en 2020, on devrait plus voir ce qui est arrivé dans les séries éliminatoires avec Columbus.
Quelque chose à ajouter, Max?
Oui. La plupart du temps, Mario, maintenant, les entraîneurs commencent dès le camp d'entraînement. Ils disent, moi, ma porte, elle va être ouverte toute l'année. Si vous voulez discuter, je suis là pour vous. Ça, c'est la nouvelle génération. La plupart des coachs, maintenant, disent ça. Je suis sûr que Guillaume, même quand il était entraîneur dans les dernières années, disait la même chose.
Mais les gars, nous commençons une nouvelle association. Je trouve que c'est parti sur les chapeaux de roue. On a quand même brisé la glace. On n'est pas habitué de travailler les trois ensemble. Je pense que ça promet. Je suis vraiment content. Je suis excité. Vous avez, puis vous, c'est votre période de réchauffement pour votre balado tout à l'heure qui commence dans quoi? Dans une quinzaine de minutes, les gars?
Dans 14 minutes, donc on s'en va sur YouTube, on reçoit Charles Hudon, Vincent Lecavalier, la première de la saison 2, La Poche Bleue, on a notre site internet, lapochebleue.com, vous cliquez sur le bouton, puis tout est là, vous pouvez aller sur notre YouTube, on s'en va là, pas de censure, on s'amuse comme la saison 1 pour ceux qui suivaient le podcast, mais bien d'accord avec toi Mario, je pense que Max va endosser aussi, on a eu bien du fun pour la première, je pense que ça promet.
Et je sais que Guillaume, donc tu seras avec Jérémy Rainville plus tard ce soir, tu vas revenir me revoir parce qu'on va se parler une couple de fois par semaine, une fois on sera les trois, une fois chaque ensuite dans la semaine. Qui sera avec Paul Arcand demain matin?
C'est moi.
C'est Guillaume qui est avec Paul.
Ouais.
Et donc, je te souhaite une belle entrevue avec Paul. Et j'allais vous dire, les gars, puisque c'est un départ, je vais reprendre un petit peu l'analogie que tu faisais, Maxime. Ma porte reste ouverte, puis mon frigidaire va être puis mon frigidaire va être plein. Fait qu'il n'y a pas de problème.
Ça, c'est un coach 2020.
Un player's coach. Maxime, Guillaume, un gros merci, les gars. C'est parti. Yes. La Poche Bleue, 98.5 Sports, c'est un départ. Guillaume, je te dis à demain. Maxime, à demain. Bonne nuit. Je pense que c'est l'heure d'aller... Non, t'es pas sur le bord d'aller te coucher. C'est vrai, tu regardes le hockey.
Mais non, je m'en vais avec Guillaume faire le podcast.
Donc, ben oui.
Qu'est-ce
que je dis là?
L'accompagne toujours. Je okay. Watch.
Salut les gars, bon salut, podcast, bon balado. Yes. C'était Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Les Raptors de Toronto, le match est en cours, ils font face à l'élimination et les Celtics dominent actuellement la rencontre et ils tirent de l'arrière par quelques points. C'est 25-21 au moment où l'on se parle et nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Ensuite de quoi? Bien le condensé du point de presse téléphonique de Laurent Duvernay-Tardif aujourd'hui, à la veille d'une saison de la NFL, il y avait des choses à nous annoncer puis on lui a demandé si était plus déchiré la veille de l'ouverture de la saison qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Bref, c'était ne pas manquer. Et on vous rappelle qu'il y a du soccer. Match important ce soir. Toronto FC, Impact de Montréal, ici, sur nos ondes.